C'est avec vous Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Comment lutter contre les armes à feu aux États-Unis ? Donald Trump est resté flou cet après-midi, mais il a condamné le suprémacisme blanc. Le président américain s'est exprimé au lendemain d'un week-end meurtrier dans le pays, deux fusillades qui ont fait près de 30 morts. Nous rejoindrons Grégory Phillips à El Paso, l'une des deux villes concernées au début de ce journal. El Paso. À la frontière avec le Mexique, la communauté hispanique a payé un lourd tribut à la fusillade provoquée par un homme blanc soupçonné de racisme. Il est désormais inculpé pour meurtre aux États-Unis et Mexico envisage également des poursuites. Précision à suivre de notre correspondante Emmanuelle Steele. L'Égypte également endeuillée ce soir par un attentat. Au moins 20 personnes ont perdu la vie. Une collision entre plusieurs véhicules au Caire se transforme en acte terroriste. C'est le président Al-Sisi qui l'a confirmé cet après-midi. Au Royaume-Uni, les entreprises paniquent. À la proche d'un Brexit sans accord, surtout les plus petites d'entre elles. Reportage à suivre d'Otsoufi. Et puis en France, les syndicats du groupe de prêt-à-porter Tati obtiennent un soutien du gouvernement. Reçus ce matin au ministère du Travail, ils ont fait valoir des imprécisions et des soupçons d'irrégularité dans le projet de restructuration, un PSE qui concerne au moins 70 personnes. Au lendemain d'un week-end meurtrier aux États-Unis, deux fusillades qui ont fait près de 30 morts et des dizaines de blessés, l'heure est toujours au recueillement dans le pays. À la Maison-Blanche, les drapeaux sont en berne et le président Donald Trump s'est exprimé cet après-midi. Un président pris pour cible par l'opposition qui lui reproche sa rhétorique raciste, haineuse et anti-immigrée. L'une des fusillades, en effet, s'est produite à El Paso, au Texas, et c'est un homme blanc soupçonné d'avoir rédigé un manifeste anti-hispanique qui a commis le pire hier. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Anne.
Vous êtes notre envoyé spécial à El Paso, au Texas. Vous avez écouté le président américain, conférence de presse d'une dizaine de minutes marquée par la prière, l'émotion. Mais aucune solution concrète n'a été avancée par Donald Trump pour éviter de nouvelles tueries.
Oui, c'était une adresse à la nation assez solennelle, mais pas de solution concrète proposée par Donald Trump ce matin. Sur Twitter, le président pourtant avait proposé de renforcer le contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu en demandant de manière assez étonnante d'ailleurs aux démocrates de lier cela à sa réforme de l'immigration. Mais là, pas un mot là-dessus, sur ce qu'on appelle les background checks, rien non plus sur une éventuelle interdiction des fusils automatiques, comme réclamé par le New York Post dans son édition de ce matin. Rien de concret, donc le président évoque un problème général de santé mentale. Internet sur lequel est diffusée cette idéologie mortifère, les jeux vidéo aussi promoteurs de violence, dit-il. Enfin, Donald Trump réclame la peine de mort pour les auteurs de crimes de haine, mais donc pas d'avancée majeure proposée ce matin après la mort de ces 29 personnes. Beaucoup de prières en revanche et de condoléances adressées aux victimes et à leurs proches.
Dans son intervention néanmoins, le président américain a pris ses distances avec le suprémacisme blanc.
Oui, alors c'est sans doute le point qu'il faut retenir de cette adresse à la nation. Nous devons condamner la haine, le racisme et le suprémacisme blanc. C'est la première fois que Trump dit cela de manière aussi claire. Vous savez que le tireur d'El Paso avait effectivement publié sur le net un manifeste dénonçant ce qu'il appelle l'invasion du Texas par les hispaniques. Aujourd'hui donc Trump condamne ces théories suprémacistes et parle aussi de terrorisme intérieur aux États-Unis. Nous devons agir maintenant, trouver une solution bipartisane, dit encore le président, mais c'est sans doute un vœu pieux parce que vous savez qu'en février, par exemple, la Chambre des représentants à majorité démocrate avait voté une loi proposant de renforcer le contrôle des antécédents, mais le texte n'a jamais passé la barre du Sénat à majorité républicaine.
Merci Grégory Phillips pour votre compte-rendu. Vous étiez en direct d'El Paso, au Texas. L'auteur de la fusillade d'El Paso, un jeune homme blanc qui a tué 20 personnes dans un supermarché à la frontière avec le Mexique, s'est rendu. Il est inculpé pour meurtre. 7 ressortissants mexicains ont été abattus et les autorités judiciaires mexicaines envisagent également des poursuites. Elles estiment que le tireur est un terroriste. Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, s'est dit indigné par ce crime à caractère haineux et doit se rendre à El Paso, dont 83% de la population est d'origine hispanique. C'est une correspondance à Mexico d'Emmanuel Steele.
C'est un acte de terrorisme contre les Mexicains aux États-Unis. La position du Mexique sur la tuerie d'El Paso est sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a annoncé des poursuites judiciaires pour terrorisme et une éventuelle demande d'extradition de l'auteur des faits. Mais le Mexique veut aussi traîner devant la justice tous ceux qui ont permis aux tueurs d'El Paso de s'armer. Depuis quelque temps déjà, le gouvernement mexicain a fait de la vente libre des armes aux États-Unis un enjeu des relations diplomatiques, critiquant ouvertement l'absence de contrôle au nord de la frontière et le laxisme par rapport au trafic d'armes destiné aux organisations criminelles mexicaines. Maintenant que ces armes se retournent contre ses ressortissants aux États-Unis, le Mexique hausse le ton. Le président Andrés Manuel López Obrador a aussi condamné la haine de l'étranger alimentée au nord de la frontière. Le chef de la diplomatie mexicaine se rend à El Paso ce lundi pour rencontrer les proches des victimes et réclamer depuis le Texas des mesures plus énergiques pour protéger la communauté hispanique des attaques à caractère haineux.
Correspondance à Mexico d'Emmanuel Steele. En Égypte, les autorités ont d'abord cru à un accident. Finalement, le président du pays, Al-Sisi, précise ce soir qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Au moins 20 personnes ont été tuées au Caire dans la nuit de dimanche à lundi à l'occasion d'une collision entre plusieurs véhicules. Martin Roux.
En plein centre du Caire, une forte détonation a été entendue à près d'un kilomètre à la ronde hier sur les coups de minuit. Un important incendie s'est alors déclenché et dégagé une épaisse fumée noire à proximité de l'Institut National de Cancérologie. L'Institut est ensuite rapidement évacué, mais les raisons de cette explosion restent inexpliquées. Plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, une explosion dans la réserve de bonbonnes à oxygène à l'intérieur de l'Institut. Puis vient la version des autorités. Un chauffard remontant la corniche du Nil à contresens aurait provoqué cet accident. Une version qui peine à convaincre en raison de l'ampleur de l'explosion et du nombre de victimes. Cet après-midi, le président Al-Sisi évoque désormais la piste terroriste. Selon les autorités, la voiture à l'origine de l'accident transportait des explosifs et se dirigeait donc vers le lieu programmé d'un attentat. Les autorités ont aussi fait savoir qu'un suspect avait déjà été arrêté et qu'il s'agirait d'un membre des Frères musulmans. Si la piste terroriste est plus convaincante, des zones d'ombre persistent. Comment expliquer, par exemple, que ces supposés terroristes aient décidé de s'engager à contresens dans cette artère centrale, au risque de faire échouer leur projet d'attentat ?
Les précisions de Martin Roux. La colère du Pakistan était prévisible. Immédiatement après la décision du gouvernement indien d'annuler le statut spécial de sa région du Jammu et Cachemire, Islamabad s'est fendu d'un communiqué. Le Jammu et Cachemire va en effet devenir une région à part entière de l'Inde. Terminé donc le statut d'autonomie qui datait des débuts de la République fédérale indienne. Sonia Ghezali pour le Pakistan. New Delhi est tout simplement dans l'illégalité.
Partie prenante de ce contentieux international, le Pakistan emploiera tous les moyens possibles pour contrer cette démarche illégale. Réaction du ministère des Affaires étrangères pakistanais ce lundi, quelques heures après l'annonce des autorités indiennes. Le Pakistan a rapidement appelé l'ONU et la communauté internationale à intervenir dans ce contentieux. Le Pakistan et l'Inde se partagent le Cachemire depuis leur partition en 1947, tout en revendiquant la souveraineté sur la totalité de ce territoire. Cachemire indien et pakistanais étaient depuis 1948 régis selon un statut spécial en vertu de la résolution 39 du Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci exige que l'Inde organise un plébiscite libre et impartial dans sa partie du Cachemire afin de déterminer le statut de cette région en respectant le désir de ses habitants à majorité de confession musulmane. En annulant le statut spécial du Cachemire, l'Inde viole cette résolution. C'est ce que dénonce le Pakistan. Les généraux pakistanais se retrouvent demain pour une réunion extraordinaire, alors que les tensions se sont accrues récemment dans le Cachemire pakistanais, visé par des bombes à sous-munitions larguées par l'Inde, selon les accusations du Pakistan.
Sonia Ghezali. À Hong Kong, les transports ont recommencé à circuler après une journée chaotique à cause de la grève générale. À titre d'exemple, plus de 200 liaisons aériennes ont été annulées ce matin. Des actions multiples de la part des militants pro-démocratie qui ont aussi tenté de bloquer une autoroute avant de recevoir des gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, est sortie de sa réserve. Elle a organisé une conférence de presse, la première depuis 15 jours. Mais aucune inflexion concernant sa ligne pro-Pékin. L'Union européenne reste ferme avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. La Commission européenne a réaffirmé cet après-midi que l'accord sur le Brexit est le meilleur possible et ne sera pas rouvert à la discussion. La déclaration politique, c'est-à-dire le document qui fixera le cadre des relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni, pourra en revanche être rediscuté. Voilà de quoi renforcer les efforts budgétaires britanniques en direction d'un divorce sans accord. Le budget dédié à cette option a été doublé la semaine dernière et atteint les plus de 4 milliards de livres, des fonds pour aider les entreprises de la couronne britannique, mais nombre d'entre elles sont plutôt en train de paniquer au Tsoufi.
Deux fois déjà, la menace d'un no deal a plané sur les entreprises en mars et en avril. Pourtant, elles ne sont pas prêtes, c'est la Confédération de l'Industrie Britannique, l'équivalent du MEDEF, qui le dit, en cause principalement un manque de clarté des conseils. Le directeur général adjoint de la CBI, Josh Hardy.
Les entreprises sont sur le terrain, elles comprennent vraiment ce qui va se passer. C'est par elles que les gens comprennent le no deal, donc la relation entre les entreprises et le gouvernement est fondamentale. Elle a été mise sur pause et doit maintenant être redémarrée.
Les grandes entreprises disposent de meilleurs plans d'urgence que les petites structures. Pour les PME comme Creative Nature, la tâche est plus compliquée, comme le déplore sa dirigeante Julianne Ponan.
Elles ont les ressources nécessaires pour dédier une équipe ou au moins une personne à leur stratégie concernant le Brexit. Mais nous, les petites entreprises, nous n'avons pas le temps de faire ça.
Son entreprise commercialise des produits alimentaires véganes et sans allergènes.
C'est difficile de faire des stocks parce que ce sont des denrées périssables. Mais nous devons en faire parce que sinon, nous risquons de nous trouver dans une situation où nous ne pourrons pas importer.
Il reste 88 jours avant la date du Brexit. Selon la Banque d'Angleterre, en cas de no deal, un nombre important d'entreprises ne serait plus en capacité de fonctionner.
Le reportage à Londres d'Aude Soufi. En France, les syndicats du groupe de prêt-à-porter Tati ont été reçus ce matin au ministère du Travail. 15 jours après l'annonce d'un projet de restructuration, les syndicats ont voulu soulever les contradictions et les imprécisions de ce PSE. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Première contradiction d'importance, le nombre précis de postes supprimés.
Oui, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit 70 suppressions de postes, assure les syndicats. Mais voilà, Philippe Ginesté, le repreneur et président du groupe Tati, en évoquait à la mi-juillet 189. De même qu'il y a deux ans, il avait promis de développer l'enseigne Tati, il annonce la fermeture de 13 magasins et passe les autres sous enseigne Jiffy. De quoi en effet rendre suspicieux des élus du personnel qui ont relevé d'ailleurs de nombreuses infractions au code du travail de la direction de Tati. Pas de consultation du secrétaire du CSE, aucune communication des documents légaux. Bref, que la direction se mette en conformité avec la loi, c'est ce qu'ils sont venus demander au ministère ce matin. Élodie Ferrier, la secrétaire fédérale de la CGT Commerce, pense y avoir été entendue.
Ils ont été quand même très surpris des éléments qu'on leur a apportés. Et surtout depuis l'évolution du rachat, ils ont été très surpris de tout ce qui s'est passé. Dans le coup, ils vont prendre contact avec la direction de Tati. Déjà d'une pour leur faire part de leur mécontentement. Parce que tout ce qu'on leur a dit, ça leur a pas vraiment plu non plus. Ils se sont dit c'est pas possible que ça se passe comme ça, c'est pas possible tout ce qui se passe. Donc ils vont leur faire part de leur mécontentement. Ensuite, ils vont leur demander des explications, ils vont attendre des réponses sur tous les faits qu'on a apportés, tous les éléments. Et le PSE va être mis sous surveillance.
Un PSE sous surveillance du ministère du Travail. En tout cas, les syndicats ont suspendu pour le moment leur participation aux réunions sur le projet de restructuration. Nos actions reprendront en septembre, ont-ils affirmé.
Merci Annabelle Grelier pour vos explications. Les vacances et la chaleur ne freinent pas l'administration fiscale. Certains contribuables assujettis à l'IFI, le nouvel impôt sur la fortune immobilière, ont déjà reçu des demandes d'information de la part du fisc. Ces demandes sont traditionnellement envoyées à l'automne. Mais la surveillance de l'IFI qui a remplacé l'ISF serait en fait beaucoup plus efficace, Hugo Charpentier.
Si cette année les contrôleurs de Bercy ont pris de l'avance, ça s'explique d'abord par le fait que les contribuables soumis à l'IFI sont trois fois moins nombreux que ceux qui étaient assujettis à l'ISF, 120 000 environ contre 360 000. Pour cibler d'éventuels tricheurs, c'est tout de suite plus simple. Mais ce n'est pas tout. L'autre raison, c'est que les déclarations ont changé. Le patrimoine immobilier doit être désormais soigneusement détaillé. Frédéric Naïm, avocat fiscaliste.
Depuis l'année dernière, on a réimposé une déclaration de tous les biens de manière unitaire. Donc c'est-à-dire que, en gros, quand vous faites votre déclaration d'IFI, vous devez décrire chaque bien qui compose votre assiette imposable.
Tout cela permet de constituer une solide base de données, une mine d'or pour les spécialistes de l'intelligence artificielle des services fiscaux. Leur unité utilise de puissants algorithmes pour exploiter toutes ces informations et ça change tout.
Parce qu'elle peut beaucoup plus facilement faire des comparaisons pour rehausser les biens qu'elle considère comme insuffisamment évalués. C'est la digitalisation des services. Si vous voulez, vous avez quand même au niveau de l'administration fiscale une forme de révolution. Elle a mis en place des équipes dédiées pour profiter de cette information et l'exploiter fiscalement.
Des profils sont alors identifiés et signalés aux directions locales des impôts qui, à leur tour, lancent des contrôles. Tout est plus rapide, tout est plus efficace qu'à l'époque de l'ISF. Pour Frédéric Naïm, la peur a changé de camp.
Un signal fort de l'administration à dire ne jouez plus comme vous pouviez jouer auparavant parce qu'on est là. C'est une volonté de montrer que l'administration peut avoir l'information en temps presque réel et inviter les contribuables à remplir correctement leur déclaration.
Et puis enfin, si Bercy s'active, c'est aussi parce que ça rapporte. L'IFI pourrait ramener plus d'1,5 milliard d'euros cette année dans les caisses de l'État. C'est quasiment le double de ce qui avait été espéré dans un premier temps.
Hugo Charpentier, la météo demain, mardi 6 août, toujours des nuages et de la pluie sur le nord-ouest, ciel ensoleillé partout ailleurs et les températures dans la matinée, 18 à Brest, 22 à Paris, 21 à Lille, 23 à Bordeaux, 26 à Strasbourg, 27 à Lyon et jusqu'à 29 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.